Du commerce triangulaire à l'émigration basque, les Frémont, une dynastie de capitaines. Voici la seconde et dernière partie de la conférence de Pierre Lair Frémont, chercheur en chimie médicinale et enseignant dans une école d'ingénieurs. Conférence enregistrée le 18 octobre 2017 au Musée basque de l'histoire de Bayonne, dans le cadre de l'exposition Tromelin, l'île des esclaves oubliés. Du commerce triangulaire à l'émigration basque, les Frémont, une dynastie de capitaines. Voici donc la seconde et dernière partie de cette conférence de Pierre Lair Frémont.
Vous êtes peut-être déçu parce que j'ai pas énormément d'informations sur la partie négrier, mais c'est vrai qu'il n'y a pas généralement dans les rôles de désarmement, il y a très peu de choses. Et le fait que j'ai trouvé justement ce dossier avec en particulier toute la liste des marchandises, moi j'étais assez satisfait d'avoir trouvé ça. Donc maintenant, le capitaine Louis Frémont et son engagement dans l'immigration. Alors, là, il n'y a aucune information particulière là-dessus, mais je trouve tellement joli ce document. Alors ça, ce n'est pas la matricule, ça c'est ce qu'on appelle les états de service. C'est-à-dire qu'une fois de plus, dans la mesure où quelqu'un voulait être reçu capitaine, il fallait qu'il puisse justifier des fameux mois qu'il avait fait à l'État, etc. Donc on apprend que Louis-Guillaume Frémont a navigué comme maître-timonier à 45 francs en l'an 1809, là c'était sur des bateaux de l'État, et qu'il était lieutenant à 30 francs sur un navire de commerce en l'an 10. Ça, c'est un bâtiment du commerce. Alors on a ici évidemment la liste complète de tous ces embarquements. Alors il a commencé ici l'an 9, alors lui aussi a commencé à 15 ans, une fois de plus, c'était relativement tardif pour ces générations-là. Le 20 frimaire en 9, c'est-à-dire le 12 décembre 1800. Il embarquait ensuite sur un bâtiment qui s'appelle les Deux Sœurs, capitaine Deheul. Alors Deheul, c'est son oncle, par alliance, c'est-à-dire sa tante, Safré, a épousé un certain Deheul qui était capitaine, le fils de Deheul était capitaine, et d'ailleurs Louis était le parrain de ce garçon-là. Et ensuite, il a navigué 5 ans sur un bâtiment qui s'appelle le Député, capitaine Vacry. Alors Vacry, c'était son beau-père. C'est-à-dire que sa mère s'est retrouvée veuve à 20 ans aussi. Elle s'est remariée 13 ans plus tard avec un certain capitaine Vacry, évidemment, un capitaine de long cours de Quillebeuf. Alors Vacry, c'est peut-être un nom qui vous évoque quelque chose. Ce Jean-Odine Vacry, donc le mari de Marianne Safré, le beau-père de Louis Frémont, c'est le frère de Charles Isidore Vacry, dont le fils Charles a épousé la fille de Victor Hugo. Et donc, Charles et Léopoldine sont morts en 1943 dans le naufrage de leur barque en venant de Côte-Bec, etc. Il y avait également à bord deux autres personnages qui sont Pierre Prosper, le frère, et le neveu Artus. Et puis, voilà, les contemplations, vous connaissez tous le poème qui est venu de là. Alors, une anecdote, c'est que ma grand-tante m'a filé beaucoup d'informations sur la famille. C'était toujours des trucs qui se sont révélés vrais, mais qui étaient déformés. Et par exemple, elle m'avait dit « On est de la famille de Victor Hugo ». Non, bien sûr, on n'est pas de la famille de Victor Hugo, mais j'ai retrouvé 20 ans après cette filiation-là, et je me suis dit « Effectivement, il y avait un lien, il y avait quelque chose ». Mais voilà. Mais c'était quand même des pistes qui m'ont toujours été pratiques. Alors voilà, on arrive enfin dans le cœur du sujet. Parlons basque. Alors, l'information initiale de cet événement, je l'ai trouvée dans l'acte de mariage de son fils, donc Pierre Guillaume Onésime Frémont, né à Quillebeuf, fils de Louis-Guillaume Frémont. Voilà, Louis-Guillaume Frémont, c'est celui dont on va parler. Ce garçon-là s'est marié avec une certaine Marguerite Rose Parquet. Alors, les Parquet étaient tous pilotes de père en fils. C'était une famille typiquement de pilotes. Et alors, je pense que les pilotes étaient plus riches que les capitaines, parce que ma grand-tante me disait toujours, quand on va dans le cimetière de Quillebeuf, on voit que les tombes des Parquet sont vachement plus brillantes et prétentieuses que celles des Frémont, donc ils devaient être plus riches. J'ai remonté sa généalogie, évidemment, aussi, puisque ça fait partie de ma famille. Donc j'ai trouvé 4 générations de pilotes, et il y en a même un qui était interprète des langues étrangères. Alors je trouve ça rigolo, parce que ça paraît bizarre, mais finalement, les pilotes devaient être obligés de prendre en charge tout type de bâtiment qui passait, et bien évidemment, il y avait des bâtiments de toute nationalité. Alors je pense que les pilotes devaient baragouiner quelques mots d'anglais, d'espagnol, de hollandais, pour arriver à s'en sortir. Mais quand il s'agissait de traduire un texte bien précis, ou même de rentrer plus dans des détails, il fallait des interprètes. Donc il y avait 6 interprètes. Et donc, j'ai sa réception aussi comme interprète des langues étrangères. Lui était spécialisé en hollandais. Alors, il explique qu'il avait pratiqué le hollandais avec son père et son frère, qui étaient aussi interprètes, et parce qu'il avait embarqué à plusieurs reprises sur des navires hollandais. Donc, voilà. Elle, c'était vraiment une dynastie de pilotes. Et dans cet acte de mariage, je trouve, père absent depuis plus de 6 ans et n'ayant plus reparu. Donc ça, c'était en 1849, donc ça veut dire qu'en 1843, Louis Frémont a disparu, et n'est pas reparu. ainsi que le constate un acte de notoriété délivré par monsieur le juge de paix du canton de Quillebeuf, etc. Ça fait 25 ans que je cherche cet acte, je ne l'ai jamais trouvé. Mais j'ai trouvé des choses plus intéressantes. Bien, alors maintenant, je suis allé voir dans la matricule. Donc, je vous ai parlé tout à l'heure de la matricule des bâtiments de commerce. Mais il existe aussi une matricule des gens de mer. Donc, pour chaque marin, il y a un document dans lequel il y a le pédigré et puis tous les embarquements qu'il a fait. Alors, celui-là est assez tardif. Et en 1846, on dit « Louis Frémont a été débarqué à Montevideo le 1er août 1843. On ignore ce qu'il est devenu. » Et en 1849, ce capitaine a été condamné à Bayonne le 19 janvier 1849 à un an de prison pour escroquerie. Alors là, j'étais très vexé parce que jusqu'à présent, je m'étais intéressé à son fils Pierre Onésime, qui était un type bien sous tout rapport, comme tu disais, Claude, action de sauvetage, invention, découverte de bancs, etc. Et là, quand j'ai trouvé ça, ma femme m'a dit « Ah, tu vois, ils sont quand même pas tous parfaits dans ta famille. » Ça m'avait beaucoup vexé. Escroquerie, bien. Il a abandonné sa femme et ses enfants à Quillebeuf. Alors, il a abandonné sa femme, c'est vrai, mais elle était très riche. Son fils naviguait depuis très longtemps, il était déjà second capitaine. Sa fille était mariée, avait déjà un enfant. Mais bon, il les a abandonnés. Et il a été vu à Buenos Aires tenant une boutique de charcuterie. Alors là-dessus, j'ai pas d'informations. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Très certainement, il a dû faire ça. Parce que voilà, à partir du moment où il n'était plus là, je ne sais pas ce qu'il a fait comme métier. Mais on va voir qu'on a des informations. Alors évidemment, je suis venu à Bayonne. Et j'ai cherché un petit peu dans l'enregistrement du tribunal. Donc effectivement, on a bien Frémont, Louis-Guillaume, âgé de 56 ans, capitaine de navire en cours, demeurant à Quillebeuf, escroquerie au préjudice de diverses personnes. Un an et un jour de prison, 50 francs d'amende au départ, le 19 janvier 1843. Alors j'ai commencé par aller regarder dans les journaux. Et dans le Phare des Pyrénées de 1843, on trouve un. Par jugement du tribunal correctionnel de cette ville en date d'hier, Louis-Guillaume Frémont, capitaine de Loncourt, et le nommé Jean-Élie Sable de la Carie, canton de Tardets, ont été condamnés à un an et un jour d'emprisonnement pour avoir usé de manœuvres frauduleuses dans le but de se procurer des passagers pour Montevideo. Alors là, j'étais déjà un peu soulagé parce qu'escroquerie, moi je voyais une entourloupe piquer de l'argent, etc. Bon, c'était à cause de ça. Dans la sentinelle des Pyrénées du lendemain, on reprend la même chose, comme convaincu de manœuvres frauduleuses pratiquées sur de pauvres habitants des campagnes de Pays Basque, dans le but de pousser à l'émigration et de se procurer des passagers pour Montevideo. Et effectivement, il y a eu un article beaucoup plus précis dans le dimanche suivant, où on précise bien les dommages causés à l'industrie et à l'agriculture par le vide qui s'est fait sans mesure sur 10 fois 30 points de nos contrées. On parle de l'émigration qui est devenue la proie de la spéculation et que les recruteurs, gens fort peu délicats, ne reculent devant aucun moyen pour tromper la bonne foi et abuser de la crédulité des pauvres habitants de nos campagnes. C'était donc un devoir impérieux pour l'autorité judiciaire de faire sentir son action, et par jugement date 19, elle a condamné le capitaine William Frémont et Jean-Élie Sable, son agent, à un an et un jour d'emprisonnement. Alors, vous allez dire que je suis de mauvaise foi, mais quand on va voir ce qui suit, quand on lit le livre de Claude Méa, on voit bien que c'était surtout les agents d'immigration qui étaient visés. Donc moi, je pense, mais bon, ça ne concerne que moi, que c'est plutôt l'agent d'immigration qui était visé et le capitaine auquel il s'était associé. Enfin bon, voilà, tous les deux ont été condamnés. Des faits révélés à l'audience, on reviendra là-dessus. Par quelques témoins, justifie que trop la condamnation prononcée contre eux et la décision du tribunal est basée sur cette considération qu'ils savaient fort bien l'un et l'autre que les promesses faites aux émigrants étaient complètement irréalisables. On va y revenir. Alors, j'ai ici le compte-rendu du procès. Alors, une fois de plus, vous allez voir, je suis très de mauvaise foi en vous présentant ça. Mais voici le compte-rendu du procès. Et on dit, la cause appelée, les nommés Louis-Guillaume Frémont et Jean-Élie Sable, mentionnés, avaient pratiqué des manœuvres frauduleuses pour faire naître chez les habitants de nos contrées l'espérance d'une fortune rapide et, par ce moyen, déterminer un certain nombre d'entre eux à partir pour aller habiter Montevideo, qu'ils auraient aussi employé les mêmes moyens pour assurer qu'un homme sobre peut économiser de 600 à 700 francs par an à Montevideo, qu'ils auraient également persuadé qu'un homme y gagne 5 francs par jour. Bien. Alors, à l'appui de ce jugement, il y a un certain nombre de témoignages qui ont été donnés, et en particulier un témoignage d'un type qui était parti à Montevideo, un Basque. Il faisait manifestement pas partie de ce qu'avait réussi, puisqu'il était tout triste, il voulait absolument rentrer, et il avait écrit une lettre à son curé, ici, au Pays Basque, pour se plaindre en disant « oui, on nous a fait des promesses, mais c'est pas vrai ». Alors c'est assez amusant parce que dans ce texte, il dit « voilà, on gagne par jour de 3 à 4 et jusqu'à 5 francs, et les maîtres maçons ont de 7 à 8 francs. Mon état ne va pas parce qu'il n'y a pas de marchandises, j'ai beaucoup souffert avec ma famille, etc. Aujourd'hui, je suis bien content de gagner 5 francs par jour ». Alors, avec la mauvaise foi qui me caractérise, je me dis finalement, ce qu'on a vu tout à l'heure, où les promesses étaient totalement irréalisables, ça n'était pas tant que ça. Bon, allez, soyons sérieux. On sait très bien, quand on lit les textes, qu'effectivement, le moyen qu'utilisaient les agents d'immigration, c'était de leur faire miroiter monts et merveilles, et qu'évidemment, ces promesses n'étaient réellement pas réalisables. En conséquence, ils ont été cités pour l'audience de ce jour, pour se voir condamnés... Je suis trop près de l'écran, je ne vois pas tout à fait. Ils ne se sont point... Voilà. Peine de droit, voilà. Mais ils ne se sont point présentés, quoique les légalement assignés. Alors, on verra tout à l'heure la chronologie. Ils étaient en mer pour Montevideo au moment du jugement. Donc, évidemment, ils ne pouvaient pas être là. Alors, de quoi s'agit-il précisément? Alors, j'ai évidemment retrouvé le rôle de désarmement correspondant. C'est un brick, donc un bâtiment à deux mâts qui s'appelle l'Indien, qui va à Montevideo et Buenos Aires, et sous le commandement du sieur Frémont. Donc on a ici, comme je vous le disais, dans chaque rôle des armements, on a tout le pédigré de chaque marin, donc Frémont, Louis-Guillaume. Alors, il part le 16 juillet 42 du Havre, pour Montevideo et Buenos Aires, chargé de diverses marchandises, 13 hommes d'équipage et pas de passagers. Et il arrive à Passage, au Passage, le 28 juillet 42, venant du Havre, chargé, pareil. Et il repart du Passage le 10 décembre, donc il a passé quand même 4 mois là, allant à Montevideo, chargé de ayant 192 passagers, donc ça c'est les immigrants qu'il est venu charger, et évidemment chargé de provisions, puisqu'évidemment il n'était pas question d'emporter de la marchandise, il fallait bien nourrir tous ces gens-là pendant les 2 mois et demi de traversée, donc ils n'avaient que des provisions. Et il est arrivé à Montevideo le 8 février 43, venant du Passage, avec 191 passagers, il y en a un qui est mort en route, ce qui, quand on regarde les statistiques, n'était pas terrible, parce qu'il y avait quand même souvent beaucoup de morts en route. Et 192 passagers sur un bâtiment de la taille d'un brick, j'ose pas imaginer, je ne sais pas si c'était guère mieux que le transport des esclaves. Le Passage, ça vous dit quelque chose?
Passage.
Voilà. Donc, le Passage, en espagnol, Pasajes, en basque, Pasaya, c'est ce petit port qui se trouve juste à l'ouest de San Sébastien. C'est un endroit qui, de tout temps, a été un port très important, puisqu'il est extrêmement protégé de la houle, grâce à une forme très, très profonde à l'intérieur des terres. D'ailleurs, je crois que c'est officiellement le port de Saint-Sébastien à l'époque, hein, puisque Saint-Sébastien n'était pas du tout protégé de la houle. Et il y a des chantiers navals à Passares depuis très, très longtemps. Donc là, c'est une représentation du port à l'envers, puisque le nord est en bas. Donc vous voyez, effectivement, on voit un goulet extrêmement étroit avec à l'extrémité un bassin très protégé, et encore aujourd'hui le port est tout à fait actif. Alors pourquoi le Passage? Parce que quand on voulait franchir et longer la côte cantabrique, pour en particulier aller à Saint-Jean-de-Compostelle, eh bien, il était plus intéressant de traverser ici par un passage que de faire tout le tour. Alors aujourd'hui il y a un petit canot vert très, très mignon qui fait cet aller-retour avec un monsieur qui n'est pas toujours très aimable. À l'époque c'était des femmes qui faisaient ça, on appelait ça les batelières de Pasaya, les hommes étaient marins, les femmes étaient batelières, donc elles avaient un petit bateau à rames et elles faisaient la traversée sans arrêt. On connaît le départ de Lafayette en 1780 pour l'Amérique avec l'Hermione. On sait moins qu'il est parti une première fois en 1777 à bord d'un bâtiment qui s'appelle La Victoire de Pasaya. Donc il y a un tableau qui représente ce premier départ de Lafayette, avec évidemment le drapeau américain puisqu'il allait soutenir les Américains, avec le port de Pasaya au fond. Alors, Claude Méa, dans son livre, précise que François Brie, qui était un agent d'immigration très important à l'époque, avait délocalisé ses activités sur le port espagnol de Passage. Dans ce port proche de Saint-Sébastien, il prépara 11 voyages vers les années 1840. Et entre 1938 et 1943, il y a 21 bâtiments qui sont partis. Alors effectivement, le fait qu'il soit hors de la juridiction française permettait peut-être, dans certains cas, dans des moments où les relations entre les agences d'immigration et les pouvoirs publics basques français étaient un peu tendues, il était peut-être plus prudent de partir chercher des immigrants à Pasaya, ce qui mettait a priori un peu à l'abri. Donc ça, c'est une représentation de Pasaya en 1850. Ça, c'est une photo que j'en ai faite il y a quelques années. Et c'est assez touchant de voir que ça a très peu changé. Les bâtiments, évidemment, ont été modifiés. Mais je ne sais pas si vous connaissez tous Pasaya, mais une fois qu'on a franchi toute l'entrée, qui est un environnement moche, portuaire, etc., on descend de voiture et on rentre là et on se trouve dans... On se trouve 150 ans en arrière. C'est vraiment très, très intéressant comme endroit. Alors, vous connaissez sans doute ça par cœur, mais j'ai repris quelques informations rapides sur l'immigration. Je me suis inspiré d'un document un peu ancien qui est de 1976, et en lisant le livre de Claude, je me suis rendu compte que l'importance relative des différentes raisons a été un petit peu relativisée depuis peu, mais enfin, elles existent toujours. Donc, on sait que l'immigration basco-béarnaise a revêtu une ampleur énorme au XIXe siècle, beaucoup vers les rives de la Plata, donc l'Argentine et l'Uruguay, Buenos Aires et Montevideo. On a des chiffres énormes, puisque en 1821, sur 400 à 458 000 habitants, il y en a 100 000 qui sont partis en Amérique du Sud. Donc c'était d'une ampleur énorme. Alors, les causes de l'immigration, il y a des causes générales. Alors évidemment, le soi-disant, alors ça, je crois que c'est un des éléments qui est un petit peu moins crédible aujourd'hui, le renforcement des douanes qui diminuait les profits de la contrebande, les puissants stimulants effectivement qui venaient des mandats reçus d'outre-mer, c'est-à-dire que tous n'étaient pas comme le pauvre gars qui a écrit une lettre à son curé tout à l'heure, il y en a certains qui réussissaient, et ceux qui réussissaient, ça leur tenait à cœur de le montrer, donc quand ils revenaient au pays, ils construisaient de belles maisons, etc., donc c'était évidemment un stimulant. Et puis l'insoumission, ça aussi, je crois que c'est peut-être un peu moins important qu'on le pensait à l'époque, hein. Mais là, c'est pareil, il y a des chiffres quand même extrêmement importants. En 1841, à Garendais, je ne sais pas si je le prononce bien, on dit comme ça, il y avait 26 insoumis à Montevideo pour uniquement 5 recrues qui étaient restées sous les drapeaux. Et à Montevideo, en 1942, d'après le préfet Azevedo, il y avait 430 insoumis basques qui étaient à Montevideo. Donc effectivement, c'est quelque chose qui posait problème. Des causes plus spécifiques, on trouve... paraît-il, une corrélation entre la misère et l'immigration, c'est-à-dire chaque fois qu'il y a eu des événements au Pays Basque qui étaient un petit peu dramatiques, comme la cherté de subsistance, la maladie du vignoble, des mauvaises récoltes, automatiquement on voyait que les phénomènes d'immigration augmentaient. Une explication d'ordre psychologique aussi, qui elle, je crois, a été validée, c'est vrai que les Basques ont toujours eu l'envie d'aventure, l'envie de partir, ça s'est révélé. Et puis, alors ça aussi, je crois que ça a été un petit peu relativisé, la nouvelle législation successorale qui faisait que le cadet ne trouvait rien, tout était donné à l'aîné, donc le cadet n'avait rien, comme il n'avait pas du tout envie d'être domestique, bien évidemment c'était une motivation pour partir. L'effet de l'immigration dans le département, il y a eu un dépeuplement, et alors summum de tout, il a fallu augmenter les prix du travail, tellement il y avait peu de gens qui pouvaient travailler. Donc évidemment ça c'était mal perçu, et dans les textes on trouve que cette grande colère contre l'immigration était en fait un égoïsme caché sous le masque de la philanthropie. Et puis le clergé qui a joué son rôle aussi, puisque évidemment l'exode, considérait-il, et c'est certainement vrai, s'accompagnait souvent d'un abandon de la pratique religieuse, ce qui fait qu'évidemment le clergé appuyait aussi dans le sens d'une sanction contre l'immigration. Alors, l'image des agents d'immigration. Alors les frères Aubry, qui étaient très actifs dans les années 38, ont eu énormément de démêlés avec l'administration de la marine et le tribunal de commerce de Bayonne. Et on trouve dans les journaux locaux des mots très durs, puisqu'on parle de traite des Blancs, on parle de misérables recruteurs qui cherchent à égarer nos populations, on parle de cette peste des agents de recrutement, des pompeux prospectus, une séquestration, enfin voilà, c'est pour ça que tout à l'heure je vous disais que la cible, c'était quand même les agents d'immigration. Alors évidemment, le capitaine qui avait osé s'associer à eux était condamné aussi. Ceci dit, j'aimerais que tu nous dises, Claude, tout à l'heure, je ne sais pas combien il y a eu de procès comme ça. Je crois qu'il y en a eu assez peu, finalement. Il faudrait voir avec des spécialistes, mais... Et on va voir que si ce procès a eu lieu, c'est sans doute parce qu'il y a eu des circonstances particulières. Justement, le fameux naufrage. Alors, Claude, mon ancêtre n'était pas le capitaine de Leopoldina Rosa. Par contre, je pense que le naufrage de la Leopoldina Rosa a eu un impact très fort, et que c'est peut-être pour ça que mon ancêtre a été condamné. Donc, je ne sais pas si vous connaissez cette histoire. La Leopoldina Rosa est partie en janvier 1942, de Pasaya aussi. Il a embarqué des émigrants. Et il a naufragé en Uruguay en 1942. Donc, primo, il a été complètement abandonné par l'équipage. C'est-à-dire, à part le capitaine, le lieutenant et le médecin, ils se sont tous sauvés en laissant les émigrants se débrouiller tout seuls. Les quelques survivants qui sont arrivés à nager jusqu'au rivage ont été attaqués par les gauchos qui les attendaient pour les détrousser. Donc, sur 300 passagers, il n'y a eu que 70 rescapés. Ça a fait un scandale énorme. Et la nouvelle de la catastrophe est arrivée en France en septembre 1942. Ça a suscité une émotion considérable, déjà dans un climat quand même assez tendu, c'est-à-dire que comme l'année 42 était l'année où il y a eu un maximum d'immigration, déjà, pour les raisons que je viens de vous dire, augmentation des prix, etc., déjà il y a eu une forte tension. En plus, on apprend ça, ça a provoqué quelque chose de terrible. Donc tous les conseillers généraux, les conseillers municipaux se sont vraiment ligués contre ça. La presse locale a renchéri. Il y a même un champ basque qui a été créé pour perpétuer la catastrophe. Et je crois que Belmar, qui était un ancien... Pas Belmar, peu importe, un ancien agent d'immigration, lui-même a fait signer une pétition pour que les membres d'équipage qui revenaient soient punis. Donc vraiment, ça a été quelque chose de terrible. Alors, je vous montre la chronologie. Louis Frémont, est parti du Havre, est arrivé... Ah, je suis désolé, j'ai des pointillés, en principe, qui descendent là, mais qu'on ne voit pas là. Bon, peu importe. Il est arrivé à Passaïa le 28 août, il en est reparti le 1er décembre. Donc il a passé 4 mois, on l'a vu. Puis il a traversé pour aller à Montevideo, où il est arrivé le 8 février. Le naufrage de l'Eolina Rosa a eu lieu le 9 juin. Et la nouvelle, on l'a dit, est arrivée en France en septembre, au moment où Louis Frémont était en train d'embarquer ses immigrants. La pétition de Belmar a eu lieu en octobre. Alors, est-ce que c'est pour cette raison? Alors moi, je ne connais pas les autres cas. Je ne sais pas si c'était classique de rester si longtemps dans un port pour embarquer des immigrants. Une autre question que je me pose aussi, c'est... Parce qu'ils ont l'air de dire ça dans le jugement. Ils ont l'air de dire que Louis Frémont aussi, le capitaine, est allé recruter dans les campagnes. Moi je ne crois pas trop à ça. Je pense que l'immigration, l'agent d'immigration et ses aides, on verra tout à l'heure, allaient effectivement rabattre dans les campagnes pour récupérer du monde. J'ai jamais entendu dire que le capitaine participait à ce recrutement. Peu importe. En tout cas, il est resté 4 mois à Passaïa. Est-ce qu'il est resté si longtemps parce que l'info était arrivée et que déjà il sentait qu'il y avait quand même des conditions un peu particulières? Ça, je ne sais pas. Et puis le jugement qui a eu lieu le 19 janvier. Alors comme vous voyez, ils ne pouvaient pas être présents puisqu'ils étaient en mer. Prévenus défaillants, voilà ce que je vous ai dit, qu'ils ne sont pas présentés quoique les légalement assignés. Alors, moi je ne sais pas à quelle date la procédure a été engagée. La question que je me pose, c'est quand Louis Frémont est parti de Passaïa le 1er décembre, est-ce qu'il savait qu'une procédure avait été enclenchée? Est-ce qu'il savait déjà qu'il risquait d'être condamné? Ça, je l'ignore. Donc il est arrivé à Montevideo. Il est parti ensuite à Maldonado chercher des bœufs qu'il a ramenés à Montevideo, puisqu'à Montevideo, il y avait énormément d'entreprises de salaison, puisque les esclaves dans les Antilles étaient nourris avec de la viande salée, boucanée. Et en fait, on utilisait beaucoup des bœufs, qui étaient évidemment très fréquents en Argentine et en Uruguay, pour venir faire des salaisons à Montevideo, qui ensuite était envoyé. Donc il est revenu là aux alentours du mois d'août, et là, très certainement, l'information était arrivée. Donc il a su qu'il allait être condamné. Évidemment, il a dit « Moi, je ne rentre pas en France parce que je n'ai pas envie de faire un an de prison. » Donc il a demandé à être débarqué. Je ne sais pas si j'ai un zoom là-dessus, oui. Débarqué à Montevideo sur sa demande, le 1er août 1943, son second ayant été admis à prendre le commandement du navire. Alors il a fait ça très propre. J'ai tout un tas de documents où il a fait toutes les démarches nécessaires pour que ni l'armateur, ni le propriétaire, ni les courtiers ne soient pénalisés. Donc, contrairement à un autre événement qui s'est passé à Lisbonne, où il a été un peu limite aussi, et où là il était parti en douce, là il a fait ça très proprement. Et évidemment, son second l'a remplacé. Alors, moi la question que je me suis posée, c'est est-ce que Louis Frémont a participé activement, c'est-à-dire à plusieurs reprises à l'immigration, auquel cas on peut considérer que sa condamnation pourrait être justifiée, ou bien est-ce qu'il l'a fait qu'une fois, et que finalement il se serait trouvé au mauvais moment, au mauvais endroit, et que ça serait un fâcheux concours de circonstances? Bien, la réponse, on l'a assez rapidement. Ah oui, bon, j'avais un autre document. Alors, il est allé à Montevideo une fois en 1838, à une époque où l'immigration n'était pas encore très forte, et de toute façon, je vois dans le document qu'il n'a pas participé, il n'a pas transporté d'immigrants. Donc le seul voyage qui pourrait être un peu limite, c'est celui-ci. Juste avant celui dont on vient de parler, il a embarqué une première fois sur le même bâtiment, le brick, pour aller là aussi à Montevideo et Buenos Aires. Frémont Louis-Guillaume, capitaine de Lancourt, paf paf. Il part du Havre le 21 juillet, et il arrive, sans passager évidemment, et il arrive à Montevideo le 29 septembre. 2 mois, c'est typiquement la durée d'une traversée transatlantique à cette époque-là. Il n'a point de passager, il n'y a pas de mention d'un passage intermédiaire en Pays Basque, donc effectivement, la fois où il était condamné, c'est la seule fois de sa vie où il a transporté des immigrants. Donc là-dessus, on est réglé. Alors par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des informations dans ce rôle de désarmement précédent qui peuvent nous donner des petites pistes. Alors, il est arrivé à Montevideo, voilà. Il est reparti le 30 octobre 1841 de Montevideo, allant à Valparaiso avec un passager. Puis, il est revenu à Buenos Aires, il est reparti à Montevideo, arrivé à Montevideo avec trois passagers. Alors ça, c'est une erreur, ils se sont trompés. En fait, les trois passagers, ils sont là, ils ont embarqué à Montevideo. Et il est reparti avec un passager. Alors, qui sont ces trois passagers? On va d'abord regarder celui qui est embarqué le 30 octobre à Buenos Aires. C'est un certain Jean Elissabe. Tiens donc, le fameux agent d'immigration, il est monté à bord la fois précédente. Ils sont allés ensemble à Valparaiso. Ensuite, parmi les trois passagers qui ont été embarqués à Montevideo au retour, il y a Jean Elissabe, embarqué à Montevideo le 7 mars 1842, muni d'un passeport. Ça veut dire quand même qu'il a passé 7 mois avec Louis Frémont. Alors, une chose que je ne vous ai pas dite, c'est que juste avant ce voyage-là, Louis Frémont a passé 16 mois sans naviguer. Il avait la cinquantaine. Or, on sait qu'en général, les armateurs avaient un peu des scrupules à confier le commandement de leur bateau à des capitaines qui avaient plus de 50 ans. Ça devenait difficile, hein. Ils préféraient les confier à des gars plus jeunes. Alors, est-ce qu'il a eu, pendant 16 mois, des difficultés? Est-ce que, quand il est parti à Buenos Aires, et qu'il a passé 7 mois avec Elissabe, qui était le seul passager, ils ont discuté. Peut-être qu'il lui a dit, voilà, je suis un peu inquiet, tatitata, j'ai pas eu de commandement, je sais pas comment va se passer mon avenir. On peut pas exclure l'hypothèse qu'Elissabe lui a dit, moi j'ai un plan, vous allez voir, il y a un truc qui marche bien, transport des migrants, je le fais régulièrement, vous allez voir, on va pouvoir vous dépanner. C'est une hypothèse, mais c'est pas impossible. Ce qui est intéressant aussi, c'est que à bord, donc les trois personnages, les deux autres qui ont embarqué, je suis désolé, c'est un peu clair, il y a un certain Philippe Salle, hein, natif de Tardet, et qui est embarqué comme domestique. Et un autre qui s'appelle Jean Chao, également de Tardet, embarqué comme maître d'hôtel. Moi, je vais vous dire, hein, sur les dizaines et les dizaines de rôles d'embarquement que j'ai épluchés, sur des bâtiments de cette taille, je n'ai jamais vu un maître d'hôtel et je n'ai jamais vu un domestique. Après, quand c'était des grands trois-mâts avec 40 passagers, à partir des années 1860, là, il pouvait y avoir un maître d'hôtel. Mais à cette époque-là, non. Alors ensuite, ce qui est intéressant, c'est que... Bon, vous connaissez... Alors oui, vous connaissez tous le positionnement de la Haute-Soule et du canton de Tardets. Alors, si on regarde en détail, Jean Chao est de Tardets, on l'a vu. Philippe Salle, il est dit natif de Tardets. En fait, il est de Sibas, puisque son surnom, c'est Aguerre de Sibas, et sa mère est Marianne Aguerre de Sibas. Et Jean Elissabe, il est natif de Charite. Il y a 2 km ici, 4 km là. Ça veut dire que ces trois types qui se retrouvent à Montevideo, embarqués sur un bâtiment, étaient originaires exactement de la même région. À mon avis, c'était, non pas l'ensemble, mais une partie de l'agence d'immigration. Jean Elissabe était le chef. Ces deux-là, c'était des gars qui l'appuyaient. Et il a dû dire à Frémont, parce que il aurait fallu qu'ils payent leur passage pour rentrer. Mais là, s'ils étaient embauchés, s'ils étaient embarqués comme domestiques et maîtres d'hôtel, ils ne payaient pas. Donc, à mon avis, c'est Elissabe qui a dû arranger le coup en disant « Ces deux-là, ils travaillent avec moi, vous les embarquez avec des fonctions bidons, et comme ça, ils passeront gratuit. » À rajouter à ça, alors ça, je ne vous l'ai pas dit, mais dans le procès de Bayonne, il y a eu 4 plaignants. Hein, parce que s'il y a eu procès, c'est parce qu'il y a eu des plaignants. Et l'un d'entre eux est un certain Jean-Pierre Etchegaray de Tardets. Alors, est-ce que c'est un règlement de compte? Est-ce que c'est des gens qui n'aimaient pas ces trois-là, qui avaient un agent d'immigration? Est-ce qu'ils ont porté plainte? Je ne sais pas. Toujours est-il que c'est assez troublant de voir ça. Alors, on revient maintenant au voyage de 42. Et qui en trouve sur le voyage de 42, le voyage avec les 192 émigrants? On retrouve Philippe Salle. C'est là qu'on voit qu'il est dit Aguerre de Sibas, fils de Marianne Aguerre de Sibas. Et alors, figurez-vous que là, ce fameux Philippe Salle, il a été débarqué à Montevideo. Ses gages lui ont été payés, et on trouve un document officiel joint au truc disant que Philippe Salle, dit Aguerre de Sibas, cuisinier du même navire, a exposé que des affaires d'importance le forçaient à demander son débarquement. Alors effectivement, Louis Frémont, condamné à Bayonne. L'agent d'immigration, son chef, condamné. Donc, à mon avis, le gars, Philippe Salles, qui faisait partie de l'agence d'immigration, il a dû se dire, si je rentre en France, il y a quand même des chances pour que je sois aussi condamné. Donc, il a trouvé un prétexte, il s'est fait débarquer à Montevideo. Il a sans doute continué à passer sa vie là-bas. Alors, le Jean-Élie Salles, je ne sais pas ce qu'il est devenu. Je suis entré en contact à Toulouse avec un descendant à lui, qui s'appelle aussi Jean-Élie Salles, qui est en train de faire des recherches, mais il ne sait pas ce qu'est devenu son ancêtre. Donc ça, malheureusement, je ne sais pas, mais je pense qu'il a dû également s'expatrier. Voilà. Alors maintenant, je vais vous parler des dernières années de Louis Frémont. Parce qu'on a vu qu'il tenait une boutique de charcuterie à Buenos Aires. J'ai quelques autres informations à son sujet. Alors je sais en particulier qu'il est mort à Montevideo, puisque j'ai trouvé tout ce qui concerne l'état civil des Français, des ressortissants français à l'étranger, est géré par les archives diplomatiques. Donc je retrouve aux archives des affaires étrangères le décès de Louis Frémont à Montevideo le 16 septembre 1866. Bien. Montevideo, donc il est resté là-bas, apparemment il a vécu. Et le hasard fait, enfin si on peut appeler ça le hasard, que son fils, Pierre Onésime, à partir de 1943, a participé très activement à la création, par son armateur, de la ligne régulière Le Havre-Montevideo. Et sur les 31 campagnes qu'il a faites jusqu'à 1966, il en a fait 22 pour Buenos Aires et Montevideo. J'ai fait le total des escales. Sur Montevideo, il a passé plus de 3 ans. Pardon, à Buenos Aires. Donc, vraisemblablement, Pierre Onésime, sachant que son père était resté en exil en Amérique du Sud, a peut-être été tenté de participer plus à cette ligne régulière de façon à rester en contact avec son père. Et le hasard fait que Pierre Onésime est arrivé le jour de son dernier voyage, mais c'est pas un hasard, il est arrivé le 16 septembre 1866 à Montevideo, pile le jour du décès de son père. Et il n'a plus jamais navigué. Il avait plus de 50 ans à l'époque. Je pense qu'il devait être tenté déjà d'arrêter, mais il continuait justement pour être le lien. Il n'a plus jamais navigué et il est devenu capitaine inspecteur des assurances maritimes du Havre. Donc il est resté résident. Je pense qu'il avait déjà eu des propositions auparavant, qu'il avait refusé parce qu'il voulait rester en contact avec son père. Son père étant décédé, ce n'était plus la peine, et il est resté sédentaire. Alors, j'ai eu l'occasion d'aller en Amérique du Sud, et je suis allé à Montevideo, j'ai recherché dans les archives municipales, et j'ai trouvé effectivement son décès. Alors évidemment, ils espagnolisent les noms, Luis Guillermo Frémont, français, 81 ans. Là, il y a marqué Casado, son état. Il est marié. Alors effectivement, il était marié en France, mais sa femme était morte en 1850. Peut-être que l'information n'était pas arrivée jusque-là. Je sais l'endroit où il vivait. J'ai vu la maison, San José, numéro 192. La maison que j'ai vue est peut-être construite avant 1866. Je ne sais pas. Et là, il est précisé qu'il est de la paroisse. Alors ce gribouillé, ça veut dire Iglesia Matriz. C'est la grande église de Montevideo, qui est devenue d'ailleurs la cathédrale métropolitaine, qui existe encore. Donc c'est là qu'il a été enterré. Alors je suis allé voir aussi au cimetière où il a été enterré. Donc ça, c'est le cimetière de Montevideo, Cementerio Central, en 1880. Ça, c'est le même en 2011, quand je me suis rendu, avec ma femme et ma fille qui attendent ici l'ouverture, puisqu'il n'ouvrait qu'à 10h. On est rentré, on est allé voir une petite cahute dans un coin, qui étaient les archives. On a posé notre question, la dame nous a tendu un registre, 1866, on a regardé. Effectivement, on a trouvé en 1866, le 17 septembre, donc le lendemain de son décès, Luis Guillermo Frémonte, 81 ans, français, Casado. Donc il est encore bien marqué qu'il est français. Et il y avait très précisément l'endroit où il avait été inhumé, donc dans la seconde cour, la niche numéro 939. Donc on a trouvé l'endroit où il avait été inhumé, et on a retrouvé ça. Mais ce qui est le plus intéressant, c'est que cette niche où il a été inhumé avait une propriétaire. Une propriétaire qui est une certaine Eugenia R. De Frémonte. Alors là, je m'étais bien interrogé. Le problème, c'est qu'on avait un bateau une heure et demie pour Buenos Aires, on devait partir pour Ushuaia, donc on n'a pas eu le temps de creuser. Mais je suis tombé sur une dame qui s'appelle Nathalie Grumbach, qui vit à Montevideo, qui est une Française et qui est documentaliste au lycée français de Montevideo, qui a fait des recherches pour moi aux archives épiscopales. Et elle a trouvé le décès de Louis Frémont, donc le 16 septembre de l'an 1866. Moi, curé recteur de l'église matrice de Montevideo, j'ai donné une sépulture ecclésiastique au cadavre de Louis Guillaume Frémont, français de 81 ans, marié avec Madame Jenny de Ruti. Donc le R en question, là. Alors évidemment, ils ont espagnolisé aussi, ils ont transformé Jenny en Eugenia, et le R, c'est Ruti. Donc il s'est remarié. Et effectivement, on a trouvé son mariage. Donc, entre Louis-Guillaume Frémont, libre d'un premier mariage contracté à Quillebeuf avec Madame Reine-Hortense de la Rue, sans le savoir, morte le 7 août 49. Alors finalement, elle est morte le 7 août 49, et s'est remariée le 1er mai 1850. Qu'est-ce que je voulais vous montrer? Ça. Résident depuis muchos años, ça veut dire de nombreuses années. Il s'est marié avec... Oh, pardon. Il s'est marié avec Jenny Geneviève Charite de Ruti, née à Caen le 28 octobre 1808, c'est complètement faux, fille légitime de Bernard Armand, marquis de Charite de Ruti, officier de l'Empire français, membre de la Légion d'honneur, et de Jenny Geneviève Chouvenel de Colombey. Marié en 1822 avec Vincent Denis, enregistreur principal des contributions directes, né à Dunkerque, départ du Nord, mort à Marseille le 15 décembre 1836. J'ai tout retrouvé, j'ai trouvé son acte de naissance qui n'est pas cette date-là, le mariage de ses parents, son mariage à elle, la naissance de leur fils. J'ai tout retrouvé sauf le décès du mari. Et on verra tout à l'heure que ça a une importance. Alors les Charites de Ruti, c'est une famille qui a eu ses heures de gloire jadis. Donc on a ici Jenny, mariée une première fois avec Édouard Denis, puis mariée une deuxième fois avec Louis Frémont, fille de Chouvenel de Colombey. Son grand-père était seigneur d'Ossuruc et de Graïby. Il y avait un ancêtre un peu plus loin, si on remonte, seigneur de Ruti, qui était commissaire inspecteur des haras, et encore plus haut, Bernard de Ruti, qui était l'aumônier de François Ier, conseiller du roi, qui avait été sacré évêque, et qui était aussi propriétaire du château de Cheverny en 1537, homme de confiance de Diane de Poitiers. Donc c'est une famille qui a vu ses heures de gloire, mais qui là maintenant était devenue beaucoup plus modeste. Alors, comment Louis Frémont a-t-il rencontré Jenny de Ruti? Alors dans un premier temps, j'ai privilégié ce que j'appellerais la piste basque. C'est-à-dire qu'effectivement, Louis Frémont... Ah oui, ce que je voulais vous dire, c'est que Jenny, elle était basque aussi. Oui, au sûr que ça vous dit quelque chose peut-être. J'ai privilégié la piste basque, je me suis dit, tiens, il y a énormément de basques à Montevideo à cette époque-là. Parmi les Français, lui était déjà un petit peu en relation avec des Basques. Il a dû continuer, une fois vivant là-bas, à fréquenter le milieu basque. Jenny, qui était basque, forcément était fréquenté ces gens-là. C'est peut-être comme ça qu'ils se sont connus. En plus, je vous ai montré tout à l'heure les trois villages en question, mais Ossuruc et Garibi, c'est deux villages qui sont à 6 km de l'endroit. Donc peut-être même que Jenny connaissait ces gens-là préalablement et qu'évidemment, à Montevideo, elle s'est rapprochée. Bien, ça c'est la première piste. Mais j'ai une autre piste plus crédible encore. Ah pardon, oui, c'est juste pour vous dire que encore aujourd'hui à Ossuruc existe le château de Ruti, qui d'ailleurs aujourd'hui est occupé par la mairie et que j'ai pu visiter puisqu'il y a un certain nombre de salles qui sont utilisées comme salles de réunion. J'ai une autre piste. Figurez-vous qu'en 1838, Louis Frémont est parti à bord d'un bâtiment qui s'appelle le Fulgor, et il a eu à son bord comme novice pilotin un certain Charles Denis, fils de Édouard Denis et Jenny de Ruti. Donc ça veut dire que 12 ans avant de se marier avec cette femme, il avait navigué avec le fils. Je ne crois pas que ce soit possible, que ce soit une coïncidence, qu'il ait navigué en 38 avec le fils de cette dame et que cette dame, il l'épousait 12 ans plus tard à l'autre bout de l'Atlantique. Donc moi, je pense qu'il se connaissait déjà. Je pense qu'il avait, comme dit Bill Clinton, des relations inappropriées avec elle. Et que quand il a vécu, quand il a été obligé de s'exiler, il a fait venir, et il a attendu que sa femme soit décédée pour l'épouser. Alors, voilà, ce sur quoi je me base là-dessus, c'est que dans l'acte de mariage, il y a marqué, comme la fameuse dame Jenny Charite de Ruti, résidente depuis quelques années, alors je vous dis, hein, Louis, il est là depuis muchos años, de nombreuses années, et elle est depuis quelques années à Montevideo. Elle a perdu dans un naufrage, comme tout ce qu'elle possédait, les papiers authentiques qui prouvaient la perte de son mari et son statut de veuve. Et elle a supplanté à ses preuves par la déposition originale de trois témoins qui sont Nania et Germain Salle. Alors, comme par ailleurs, je n'ai pas trouvé dans l'état civil le décès du mari, je me demande s'il était vraiment mort. À mon avis, elle vivait avec lui. Elle a pris l'occasion pour venir à Montevideo et pour se marier avec lui. Mais à mon avis, le mari, il n'était pas mort. J'ai deux éléments, je finis juste avec ça. J'ai deux éléments dont je dispose depuis quelques semaines à peine. Alors les photos sont de mauvaise qualité, c'est mon fils qui a photographié ça avec son smartphone. En 1838, la femme de Louis Frémont, propriétaire des capitaines de navire au long cours, alors elle dit, laquelle a volontairement exposé que, j'arrive pas à lire, les désordres des affaires de son mari l'ont mise dans la nécessité de recourir à une procédure de séparation de biens. Les désordres dans les affaires de son mari. Donc elle a entamé une procédure de séparation de biens. Alors on va dire hier, elle a fait envoyer un huissier. Louis Frémont n'a pas voulu. Elle a fait faire un certificat par le tribunal civil de Pont-Audemer, etc. Donc elle a engagé une procédure de séparation de biens qui en général précède une séparation de corps. Donc il y avait quelque chose. Et le dernier document que je veux vous montrer, c'est un document qui lui date de 1841, donc juste entre le premier voyage de l'Indien et le second, dans lequel on dit que Louis-Guillaume Frémont demeure à Quillebeuf, mais résidant momentanément à Honfleur. Donc là aussi, je pense qu'il était déjà parti vivre avec elle, et que tout ça s'est terminé de la façon dont je vous parlais. Voilà, j'ai terminé avec ça. Ça, c'est un bouquin que j'ai écrit sur le fils Pierre-Onésime, dans lequel je raconte tout cet épisode de l'Amérique du Sud. J'ai quelques exemplaires là, si ça vous intéresse. Ça, c'est une photo que j'ai prise au mois de mai dernier pour montrer que le port de Pasaya est encore un port très actif au niveau de commerce. Et ça, finalement, c'est la sortie du chenal de Pasaya, c'est-à-dire la dernière image que Louis Frémont a importée d'Europe avant de s'exiler définitivement en Amérique du Sud. Voilà, je suis désolé d'avoir été long, je vous remercie pour votre attention.
Du commerce triangulaire à l'émigration basque, les Frémont, une dynastie de capitaines. Vous venez de suivre la seconde et dernière partie de la conférence de Pierre Lair Frémont, chercheur en chimie médicinale et enseignant dans une école d'ingénieurs. Conférence enregistrée le 18 octobre 2017 au Musée basque de l'histoire de Bayonne, dans le cadre de l'exposition « Tromelin, l'île des esclaves oubliés ».